France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, des émissions drôles. Épisode 1, Coluche et Jean-Yann.
C'est l'histoire d'un mec.
Quand on a décidé de consacrer une série à l'humour à la radio, avec Lily Corner de Salle des Archives, on s'est dit qu'on allait bien rigoler.
Vous la connaissez, non ?
Vraiment, on faisait le plus beau métier du monde, qui consistait simplement à écouter des émissions drôles pour en sélectionner les meilleurs extraits et à raconter l'histoire qui allait avec. Lily s'est mise au travail avec son casque sur les oreilles. De temps en temps, je jetais un œil dans sa direction pour voir si ce qu'elle écoutait la faisait rire. Et à chaque fois, ben non, rien. Je ne pouvais pas déceler l'esquisse d'un sourire. Dans mon souvenir, elle avait eu l'air plus amusée en écoutant les archives de Ronald Reagan. On était donc mal barrés. Dans l'après-midi, j'étais descendu au quatrième étage pour parler avec le service web de la programmation de l'émission. Je leur avais annoncé qu'on était en train de travailler sur une série consacrée à des émissions d'humour, un peu dans la suite de ce que l'on avait fait quelque temps plus tôt sur la radio de nuit, et ils avaient eu l'air de valider l'idée. Chacun y était allé de son émission et de son humoriste préféré. Pour certains, c'était Ruquier, pour d'autres, des papous dans la tête, pour d'autres encore, c'était Coluche. J'étais donc confiant quant au fait qu'on était sur la bonne voie avec ce sujet, et c'est pourtant à ce moment précis que Céline a décidé de me jeter un sort. Céline, c'est Céline Leclerc. Elle a longtemps travaillé aux côtés d'Hervé Gardette quand il présentait Du grain à moudre sur France Culture. Et tout à coup, elle a dit « Méfie-toi, Mathieu, Hervé l'a toujours dit. Une émission sur l'humour, c'est forcément sinistre. » Le conseil semblait avisé, mais sur le moment, je n'ai pas trop voulu le prendre en compte. On avait notre idée, on allait s'y tenir. Pourtant, avec ce présage, Céline semblait avoir enclenché une dynamique négative qui allait bientôt trouver d'autres échos. Le lendemain, à la cantine de la radio, un ancien d'Europe 1 qui travaille aujourd'hui chez nous avait pointé sa fourchette vers moi et m'avait dit « Tu sais, sur Europe, quand on avait ressorti les archives de Coluche pour un anniversaire, on pensait qu'on allait tomber sur un trésor. Eh ben franchement, à la réécoute, c'était surtout n'importe quoi. » L'après-midi, Lily s'ennuyait toujours aussi ferme avec son casque sur les oreilles, alors qu'elle aurait dû être pliée en deux sous la table. C'est là que je me suis dit que j'avais peut-être enclenché un accident industriel de programmation. Un AIP. C'est un peu le Black Swan quand on travaille à la radio, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors, pour conjurer le sort et faire mentir les oracles, je suis descendu dans la salle des archives, là où Lily avait récupéré les bandes, pour juger un peu par moi-même. J'espérais bien lever mes doutes et mes angoisses. J'espérais bien me fendre la poire, comme disent les jeunes, enfin les jeunes d'avant, pour faire mentir les présages, chasser les nuages d'inquiétude par une bonne brise de rigolade. J'ouvrais une première boîte. Sur l'étiquette était écrit « Coluche, Europe 1, 1979 ». Je passais la bande sur un vieux magnéto et j'appuyais sur play.
C'est un mec qui est dans une rivière et crie « Help ! Help ! » Et un mec qui passe, il dit au lieu d'apprendre l'anglais, je veux mieux apprendre à nager, lui. C'est une bonne femme qui est en train de rêver. Elle voit arriver un gros noir qui enjambe sa fenêtre tout nu avec un appareil qui lui pend entre les genoux. Elle arrive là et l'appareil qui se relève, paf, qui tape le nègre au front. « Oh ! » Oh ! Et elle lui crie « Qu'est-ce que vous allez me faire ?» Et il dit « Mais je sais pas, c'est pas moi qui rêve. » C'est deux routiers qui rentrent dans une voiture et dans la voiture, il y a deux PD qui descendent et disent « Non, c'est pas de notre faute, on a perdu le contrôle du véhicule parce qu'il y a une mouche qui est rentrée dans notre voiture. » Il dit « Ben moi, justement, les mouches, ils ont un cul. » Et les deux PD font
« Stop. C'était les 40 premières secondes. Céline avait raison, on avait affaire à du matériel explosif. N'écoutant que mon courage, je pressais de nouveau la touche play.
C'est dans un restaurant, il y a écrit « Le client qui arrivera à faire rire le cheval du patron mange gratuit. » Alors il y en a un qui dit « Ben moi je veux bien essayer », il arrive à l'oreille du cheval, il lui dit un truc et le cheval il se meurt. Alors il mange gratuit, il revient la semaine d'après et il y a écrit « Celui qui arrivera à faire pleurer le cheval du patron mange gratuit. » Alors il y retourne et lui dit quelque chose à l'oreille. Le cheval pleure, pour le cheval, il pleure. Alors il dit « Mais qu'est-ce que vous y avez dit ?» Ben, il dit « La première fois, je lui ai dit que j'avais un sexe plus gros que le sien, il a ri. Et la deuxième fois, j'y ai montré.
Bon, celle-là était plus mignonne. Alors que j'avançais dans l'écoute, je me rendais compte de l'énorme distance qui séparait l'humour d'aujourd'hui avec celui que pratiquait en 1979 l'humoriste préféré des Français. Coluche était la star inattaquable, celui qui faisait consensus. L'acteur césarisé de Ciao Pantin, le créateur des Restos du Cœur. Et pourtant, il était difficile d'écouter certaines de ses blagues aujourd'hui. Qu'est-ce que cela voulait dire de nous ? Est-ce que nous avions tellement changé en près de 50 ans ? Et de quoi avons-nous ri justement ces 50 dernières années à la radio ? Voilà, je tenais mon sujet. Cette série ne sera donc pas seulement un best-of des meilleures émissions de radio, même si, je vous rassure, nous allons quand même nous fendre un peu la poire. Ce sera surtout un regard rétrospectif sur les différentes manières de rire sur les ondes, pour essayer de comprendre ce qu'a été notre rapport à l'humour et ce qu'il est aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons d'abord raconter ces humoristes libertaires et sans limites qu'étaient Coluche et Jean-Yann.
Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau.
Quelle différence y a-t-il entre eux ?
Ensuite, nous parlerons de L'Oreille en coin sur France Inter, une émission qui savait égratigner mais sans choquer.
Quelqu'un qui s'appellerait Covert ne devrait pas appeler son fils Harry.
Oui, Harry Covert, c'est amusant.
Nous parlerons aussi des autres émissions de bande qui en sont l'émanation, Le tribunal des flagrants délires.
Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Et Rien à cirer.
Remarquez, vous avez beau avoir beaucoup de débit, vous n'en êtes pas pour autant un compte courant.
Puis nous nous intéresserons au papou dans la tête sur France Culture.
Saint-Lourd et bien galbé.
Résina.
Un programme qui a montré qu'il n'était pas nécessaire de se moquer pour faire rire et que jouer avec la langue pouvait être en soi amusant. Enfin, nous terminerons avec À votre écoute, coûte que coûte, un canular de France Inter qui a mis la France en émoi.
À votre écoute,
coûte que coûte.
Des émissions drôles. Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange.
Je suis mort de rire.
Réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner.
Ah, vous riez, vous forcez pas. Hein.
Pas du tout.
Olivier Mongin, vous êtes écrivain et essayiste. Vous avez dirigé la revue Esprit de 1988 à 2012. Vous vous êtes intéressé à la question de l'humour dans des livres comme Éclat de rire aux éditions du Seuil en 2002 ou De quoi rions-nous paru chez Plomb en 2006. Quelle réaction pour commencer à ce qu'on vient d'entendre et à ces extraits de Coluche?
Le comique radio, il est particulier parce que c'est un comique, justement, vous avez du humour. L'humour, parce que c'est le langage. Les gens qui travaillent sur l'humour, c'est les gens qui travaillent sur le langage.
Donc c'est de l'humour, ça ne peut pas être du
moi,
comique.
Le comique, moi je suis porté par le comique à partir des burlesques, c'est Keaton. Le comique, il est muet. C'est un gros... Pour ça, moi je trouve passionnant votre émission. Comment est-ce qu'on fait rire à partir de la question du corps, qui est la question du comique? Parce que la question du comique, c'est le corps. Je vais faire rire des gens, ben rire, c'est rire avec son corps.
Bah pas obligatoirement, puisque on peut rire avec des mots, justement.
Oui, mais on rit avec des mots qui sortent de son corps, aussi. Il y a le corps de Coluche d'un côté qui va répondre à mon propre corps. Donc comment le corps de Coluche fait rire mon propre corps? Après, c'est le corps individuel ou collectif. Et la question du rapport au collectif, il a totalement changé. Et chez Coluche, ce qui est très intéressant, c'est là, moi je suis entièrement d'accord avec votre diagnostic, parce que c'est quasi médical, c'est pas drôle. C'est pas drôle, il parle toujours de deux choses, c'est le sexe, et là vous avez peu évoqué ça, c'est la communauté. Généralement, chez Coluche au début, c'est l'Africain, le Noir.
On en a entendu justement,
il y a un peu aussi. Oui, il y a un peu, parce que quand on écoute, il n'y a plus que ça. Et c'est très court, c'est des blagues de bistrot. Lui-même disait, j'envoie des amis entendre les blagues, etc. Or Coluche, il émerge quand? Ben, il émerge quand il passe en scène. Quand il vient se balader avec son corps et qui devient Coluche, le Coluche qu'on a écouté, c'est pas Coluche, c'est un blagueur. Comme on en entendait à la radio, c'est pas un blagueur génial. Francis Blanche est bien meilleur blagueur, etc. Et c'est quand même un monsieur qui est passé par Pierre Dac. Pierre Dac, c'est le grand comique politique, c'est Radio Londres.
Hein. Donc si je vous comprends bien, à la fois, on peut pas comprendre Coluche juste avec ce qu'il a fait à la radio, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que pourquoi est-ce que c'était sans cesse ce type de blague qu'on faisait à cette époque-là? Pourquoi c'était toujours des blagues sur les communautés? Pourquoi c'est toujours des blagues au fond assez blessantes?
C'était les blagues de l'époque qui sont quand même... Alors là, tous les gens qui défendent Coluche au raison, non, sans raison, ils disent qu'il faut décontextualiser. Aujourd'hui, même les blagues sur les PD, vous ne pouvez pas les passer comme ça.
Les blagues sur les homosexuels.
Les femmes, vous ne pouvez pas passer ici à France Inter les blagues
à
sur
France Culture.
Sur les tournantes. Il y a énormément de blagues sur les tournantes. C'est-à-dire, on est une bande de mecs et on se farcit ce qu'on a envie. Pour parler poliment, on pourrait aller... Parce qu'ils parlent extrêmement vulgaire. À l'époque, effectivement, ça marchait. Alors pourquoi peut-être ça marchait? Parce qu'on était quand même dans encore une communauté politique. avec un grand seigneur qui s'appelait De Gaulle, même si on sort de 68, on est encore dans une communauté politique, et donc il y avait quand même l'idée d'un monde un peu global. Aujourd'hui, c'est fini, on est fragmenté.
Le monde est atomisé, et donc et finalement, on ne peut plus rire de la même chose ensemble.
Et communautarisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, comme faisait Coluche, d'attaquer telle ou telle communauté. Là, vous allez vous prendre des procès hein, à l'infini. Et ce qui est intéressant, c'est que Coluche, en même temps, il va nous faire glisser d'un monde où le politique avait encore sa force, pour y revenir en disant pourquoi il n'y a plus de comique politique, selon moi, en me référant au grand Raymond Devos. Et en même temps, Coluche, il va nous faire entrer dans le social, mais en même temps, son génie, c'est d'entrechoquer toujours tous les éléments du social. Il les entrechoque. Il dit, moi, l'histoire d'un mec, c'est-à-dire c'est lui qui fait le président. Et c'est pas pour rien qu'il va faire le président de la République. Il est, au fond, l'incarnateur d'un vivre ensemble possible, mais il lui faut la scène.
Oui,
il
mais alors un vivre personnage. Ensemble qui, du coup, exclut certaines communautés, c'est ça?
Non, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a la question des femmes chez Coluche qui reste très complexe. Il reste très, très, très macho. C'est le côté de la bande. On est des bandes, hein. Café de la Gare, le Splendide, c'est les valseuses. Faut pas oublier qu'il est l'ami, il vit avec Miu Miu un temps. Miu Miu, c'est la femme des valseuses, hein. Non, ça veut dire que aujourd'hui, la question de la communauté n'est plus la même. C'est plus la communauté politique qui était incarnée par un haut et un bas avec un président de la République dont on pouvait dire du mal. Personne n'a envie de rigoler de ça. Sarkozy ou de Macron, aujourd'hui, je suis désolé. Et en même temps, lui, quel que soit, il incarnait un vivre ensemble. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas conflictuel.
Il y a tous les gadgets de Coluche. Alors, il y a le képi du flic, il y a le béret, oui. Il y a le clairon, il y a les béquilles.
Oui, c'est la bon, France.
Oui, mais alors là, parfois, on peut blesser l'ancien combattant, par exemple.
Mais
on
il l'est, en général.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est encore très dur.
Si un combattant général, il est déjà blessé. Sans ça, il est gardien de square et il gueule. Non, normalement, bah oui, je sais bien.
Si on n'a pas compris que tout vous fait rire, hein.
Je sais bien que c'est embêtant de parler du cancer, de parler des enfants qui ont un bec de lièvre, de parler de...
Ah, on vous l'a reproché, là.
Ah, bah oui, c'est énorme, les lettres que j'ai reçues. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si j'avais un bec de lièvre, je m'arrangerais en plus pour avoir de l'humour. Parce que c'est quand même une énorme tare de pas avoir de l'humour. C'est le pire de tout. Parce qu'avoir un bec de lièvre, c'est la pire
des
rien.
C'est vrai que c'est la pire des infirmités, manquer d'humour.
Et puis d'autre part, moi je vais vous dire, j'ai travaillé dans des restaurants des Halles, quand les Halles existaient encore, où j'étais chanteur et où on chantait des chansons folkloriques d'un style estudiantin. Eh bien, il y avait très souvent des aveugles qui venaient en bande, si je puis dire. Qui venaient en paquet et qui n'aimaient que les histoires sur les aveugles.
Là, c'est intéressant, parce qu'on voit bien, effectivement, il est dans le social. Il est dans le social, il va chercher tous les groupes possibles humains. Et puis, en même temps, il se met constamment à distance les uns des autres. Mais il le fait pour tous. Il a cette capacité distancielle. Et en même temps, il va avec son personnage. Ce qui plaît, c'est son personnage. Son personnage qui va émerger après la radio. Il est Europe 1, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et c'est après la radio qu'il va devenir un homme de scène.
Donc, ce qu'on entend dans l'archive, c'est qu'au fond, Coluche dit, moi, je m'adresse à tous les Français, je représente la France. Et ça signifie un peu que pour lui, attaquer tout le monde, ça revient à faire communauté. Puisqu'à partir du moment où on attaque absolument tout le monde, bah, à ce moment-là, il n'y a plus personne
moi,
qui
explique.
C'était ça son idée de l'humour ?
Moi, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il est devenu. Et c'est pas pour rien qu'après, il s'amuse à dire on va faire avec le Luron, on va faire président de la République. Mais n'oubliez pas que Pierre Dac avait essayé de le faire en 1965, si je dis pas de bêtises. Et c'est un coup de fil de l'Élysée qui fait tu te calmes et tu le fais pas. Hein. Mais simplement, souvent les Coluchiens ils croient que s'il veut devenir président de la République, c'est parce qu'il veut vraiment devenir président de la République. Mais pas du tout. C'est parce qu'il a compris que tout ça, ça tenait plus. Je dis pas que c'est ce que je pense moi. Parce que tout ça, ça tient plus.
Tout mais, ça, c'est quoi?
Ben, c'est-à-dire la politique. Excusez-moi, ouais, on le vit tous les jours en ce moment, l'effondrement, l'affaissement de toute cette représentation politique. Pour être très clair, disons que la représentation politique, ça fait 20 ans qu'elle ne fonctionne plus. Et Coluche, il a très bien compris, c'était avant. Et lui, en même temps, il comprend que la représentation sur scène par un mec génial, qui est un grand clown qui s'appelle Coluche, ben il peut rassembler. Et après, c'est vrai que les Restos du Cœur, ça peut choquer des gens, moi pas du tout. C'est un peu étonnant quand on connaît le premier Coluche, qui peut être très violent et dur. Et ben les Restos du Cœur, ça n'arrive pas par hasard.
Donc pour vous, Olivier Mongin, il n'y a pas de méchanceté chez Coluche ?
Non, il y a un côté bande. Le problème de souvent d'ailleurs des gens du comique, c'est on est fait bande. Et puis à l'époque, c'est bande entre mecs, ça existe toujours. Ben, les bandes, ça reste une question d'actualité. On fait bande. Et excuse-moi, dans bande, je vais pas insister, il y a quand même une sexualisation très forte.
Avec cette première plongée dans la salle des archives, j'avais commencé à comprendre pourquoi l'univers entier semblait me mettre en garde contre ce sujet explosif de l'humour. Et pourtant, réécouter ces bandes était vraiment intéressant. Certaines étaient effectivement drôles, d'autres volontairement choquantes, certaines seulement ennuyeuses ou datées. Mais dans l'ensemble, on s'ennuyait moins qu'annoncé par les oracles. À la vérité, quand je remontais de la salle des archives, le visage empoussiéré et les lunettes pleines de cette soie que fabriquent les araignées, je me surprenais même à être bizarrement détendu. Car l'humour provoque sur nous un effet physique agréable. Les émissions drôles nous font l'effet d'un sas de décompression, et c'est d'ailleurs bien souvent la raison qui conduit les radios à en programmer, quitte à ce qu'elles soient un peu choquantes. Rire nous met en effet de bonne humeur. Pourquoi ? À cause de l'endorphine, la sérotonine et la dopamine qui se répandent dans notre cerveau à l'écoute d'une bonne blague. Sachant que la bonne blague, c'est celle qui nous fait rire, elle n'est donc pas la même pour tout le monde. Je rappelle que les enfants sont morts de rire à l'écoute d'une blague de Toto. D'une certaine façon, on peut voir les personnes drôles comme des activateurs de sérotonine. La sérotonine, c'est la molécule activée dans notre cerveau par l'ecstasy, par exemple. Eh bien, rien que d'imaginer votre tante rigolote comme une dealeuse de drogue, ce qu'elle est dans les faits, ça, c'est déjà un peu amusant. Parce que oui, cela revient à ça. La tata rigolote ou l'animateur marrant inonde votre cerveau d'hormones agréables qui font l'effet d'une drogue et peuvent même être addictives, quoique sans danger, contrairement aux drogues de synthèse. Sur les chaînes de radio les plus écoutées, les humoristes parviennent à détendre à distance et simultanément les muscles de millions de personnes, à améliorer leur circulation sanguine, à favoriser leur oxygénation et à avoir des effets bénéfiques sur leur système immunitaire, tout cela de façon absolument naturelle. Enfin, parfois, ils sont aussi énervants, ces animateurs qui se veulent drôles, et ceux-là font plutôt perdre des années de vie à leurs auditeurs. On le sait, le business de la drogue est un bon business. Comme la plupart d'entre elles vivent de la publicité, les radios ont massivement recours à l'humour pour attirer des auditeurs. Tout comme votre tante rigolote, elles ont aussi un comportement de dealer qui fournit des substances chimiques à ses clients à doses suffisamment fortes pour qu'ils y reviennent chaque jour. En France, l'homme qui a mis cela en pratique, le Pablo Escobar de la radio, s'appelait Louis Merlin. Il est le créateur de la radio Europe 1.
Vous allez voir comme nous sommes ouverts à tous les courants d'opinion. Tout à l'heure, nous parlions de Luxembourg, d'Europe numéro 1. Vous voyez, alors que nous sommes à France Inter.
J'ai toujours apprécié la courtoisie, d'ailleurs, de France Inter.
Qu'est-ce que c'est la radio aujourd'hui pour vous ? En êtes-vous content comme auditeur ? C'est un peu de la radioscopie, mais à votre échelon, là.
Alors là, je veux vous faire un grand aveu. Et tant pis s'il y en a qui en sont étonnés. C'est que depuis un petit peu plus de 2 ans... que j'ai quitté Europe numéro 1, il y a une station que j'écoute, c'est France Musique. Parce qu'elle me repose. Elle me repose parce que j'entends de la bonne musique, et rien que de la musique, il y a parfois des blablas d'ailleurs, dont je me passerai volontiers. Mais j'ai envoyé sur les ondes pendant 30 ans de ma vie tellement de parler, qui n'était pas toujours excellent d'ailleurs, tellement de musique qui n'était pas non plus toujours excellente, que je considère que c'est un grand repos maintenant de profiter du silence, d'une part, et puis, d'autre part, quand je choisis la musique, de choisir celle que j'avais pas le temps d'écouter avant.
Louis Merlin était publicitaire. Il avait fait HEC et il avait voyagé aux États-Unis, où il avait découvert d'autres façons de faire de la radio. En 1955, il crée donc Europe 1, avec l'idée de s'adresser au cadre supérieur. Son plan était de transformer le speaker habituel de la radio en un meneur de jeu qui vous accompagne tout au long de votre journée. Dans un document à l'attention de ses équipes, il avait écrit ceci. Le meneur de jeu s'assied à la table de l'auditeur, sur le bras du fauteuil de l'auditrice, ce qui ne veut pas dire qu'il soit débraillé ou indiscret. Il est l'ami de la maison. Rien à voir donc avec le côté sentencieux des speakers de la radio jusque-là. Proximité, sourire et humour vont donc se répandre à l'antenne de la station. Et c'est dans ce contexte que débarque Jean-Yann.
Monsieur Frédéric Cabriolet, nous sommes venus vous surprendre au beau milieu de votre tentative. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop.
Oh si, monsieur, si, ça m'embête terriblement. Mais enfin, ça ne fait rien, ça m'aide.
Et c'est vrai que vous tentez de battre le record d'ennui. Dites-moi, est-ce que c'est difficile?
Oh, c'est empoisonnant, monsieur. C'est ennuyeux au possible.
Mais pouvez-vous dire pour nos amis auditeurs le pourquoi de cette tentative?
Eh bien, parce que je ne sais pas faire du vélo, ni lancer le poids. Je ne sais pas nager, ni sauter à la perche. Je ne suis pas capable de battre de records sportifs. Alors, comme je ne peux pas me distraire en faisant du sport, je m'ennuie. Alors j'ai eu l'idée de battre le seul record dont j'étais capable, celui de l'ennui.
Jean Goyer, dit Jean-Yann, né en 1933, mort en 2003, a été l'un des humoristes les plus célèbres et appréciés de France. Olivier Mongin, comment est-ce que vous définiriez cet humour de Jean-Yann ?
Jean-Yann, c'est quelqu'un, il a compris tout de suite, comme Merlin lui dit, il a compris qu'il fallait créer un studio. On est toujours à la radio, comme vous maintenant, mais à la radio, personne ne nous voit. Ben lui, déjà, il va mettre toutes ses émissions, c'est avec d'autres. Il n'est pas tout seul, il y a des très grands hommes de radio, il y a Gérard Cyr, que vous m'avez fait écouter, qui est tout à fait intéressant. Constamment, il est déjà, il interloque avec d'autres.
Donc c'est l'être ensemble.
C'est l'être ensemble tout de suite, c'est-à-dire qu'il crée moi, c'est un peu mathématique, vous voyez bien. Coluche, il fait pas de bon humour ou du bon comique avec tout seul à faire une blague de 30 secondes à la radio. Il va créer, lui-même, Coluche, il va créer sa scène. Ben, Jean-Yann, le génie de Jean-Yann, c'est de créer la scène dans le studio. Hein, et vous allez en parler dans vos autres émissions. Puisque moi, je trouve le tribunal de Fringant Délire un truc génial. Faut pas oublier, je sais pas qui l'a inventé, c'est Claude Villers ou d'autres, mais c'est le modèle de la justice. C'est-à-dire, quelque part, faut calmer le jeu.
Donc, en fait, tout ce que vous nous dites depuis le début, Olivier Mongin, c'est le rôle social du rire et le rire comme un égalisateur, finalement, des problèmes et des tensions de la société.
Quand il peut le faire. Pour moi, le génie des génies qui a formé beaucoup de tous ces gens-là, c'est Raymond DeVos. Raymond DeVos, c'est quelqu'un qui disait, faut pas aller trop bas. D'un air de dire, regarde pas ton sexe toute la journée. Et faut pas aller trop haut non plus, parce qu'on te demande pas de jouer les anges et d'aller faire des poèmes. Le rire, il est à la limite. C'est le danseur de cordes. C'est-à-dire qu'il peut toujours tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est facile de dire, mais ça vaut pour le corps comme pour le langage. Pour bien. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Yann, c'est qu'il a compris qu'il fallait monter un studio. Alors ça, c'est le génie d'Europe 1 à l'époque. Et il va, mais ce studio, il va en faire un truc où il va être un peu le dominateur.
Un studio comme un spectacle, comme une scène de spectacle.
Oui, comme un spectacle. Mais lui-même, il a compris qu'il fallait qu'il soit le chef. Le problème de Jean-Yann, c'est où qu'il soit, faut qu'il soit le chef. Et il devient vite méchant. Et c'est là où il est. On aime chez Jean-Yann, c'est sa méchanceté. Il faut être honnête. Comme quoi, le rire n'est pas toujours bon. Enfin, attention.
Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus.
Je disais tout à l'heure que les radios, notamment privées, ont fait de l'humour un instrument pour élargir leur auditoire. Pourtant, Jean-Yann, par exemple, dénonce la manière dont les radios, y compris celles pour lesquelles il travaille, sont entièrement tournées vers le profit et non pas au service des auditeurs. Avec Coluche, il se trouve donc dans une situation paradoxale. Dans le même temps qu'ils dénoncent le système, ils en sont l'un des rouages essentiels, puisque ce sont eux qui font de l'audience.
Jésus-Christ Superstar! Les posters. Regardez ça. C'est l'évidence, regardez. On ne se discute pas. Les enveloppes de disques. Les autocollants. Les badges, Herbert.
Bah oui, mais vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça?
Je crois à ce qui est dans le vent, Herbert. Je ne suis pas un sceptique perpétuel.
Tout le monde dit.
Cette lutte entre la logique du profit et celle du service aux auditeurs, c'est le sujet du premier film de Jean-Yann, qui sort en 1972. Il est intitulé « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Ce film est une satire du milieu de la radio privée, dont la ligne éditoriale change tous les 6 mois en fonction des tendances du moment. Au début du film, le directeur a décidé d'en faire une radio catholique parce que Jésus est à la mode, avec par exemple une libre antenne catholique.
Nous prenons un autre pêcheur, s'il vous plaît.
Mademoiselle Antoinette Moujard de Clermont-Ferrand.
Allô? Allô, Madame Moujard?
Oui?
Allô, le père de Rugle vous écoute, vous
oui,
pouvez
vous
confesser.
Je vous écoute, ma fille. C'est une dame?
Oui, allez-y, madame, allez-y.
Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.
Pardon, je vous entends très mal.
Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.
Allô? Vous êtes en ligne, madame. Allô, Madame Moujard? Allô? Confessez-vous, allez-y.
Oh, mais j'entends pas du tout.
Qu'est-ce que vous foutez avec ces téléphones, nom de Dieu ? Oh pardon, mon père.
Le film joue sur le côté à la fois anticlérical et anticapitaliste de son discours dans une atmosphère plutôt libertaire.
Tu peux envoyer. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire.
Arrêtez-moi, c'est à vous !
Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire.
Le personnage de Gerber, joué par Jean-Yann, est renvoyé de la radio pour insubordination. Quelque temps plus tard, il écrit une pièce de théâtre qui connaît alors un grand succès, ce pourquoi le directeur de la radio, qu'il avait pourtant renvoyé, le rappelle afin qu'il devienne directeur des programmes. Gerber accepte, mais refuse de passer à l'antenne de la publicité pour des produits nocifs. Il fait donc tester chacun d'entre eux par les membres de son équipe, dont les boutons sur le visage ont alors tendance à se multiplier.
Bon alors, les séchoirs.
Hein ?
Aïe !
Hey, oh !
Quoi ?
Les séchoirs.
Les séchoirs, c'est de la saloperie, là, j'en ai essayé qu'un, puis il me boule.
Je te demande une note.
Oui, bah alors zéro, il me boule.
Bon, d'accord.
Bon, dis donc, alors ici, c'est la parfumerie, la crème de beauté.
Oui, ben ça, j'en ai rien à foutre.
Non,
j'en ai
rien à foutre, c'est ton problème.
Allez, les filles, les collants.
T'appelles ça des collants, toi ? Regarde ça, c'est pas du genou.
Et alors ?
Trois. Et encore ?
Olivier Mongin, que vous inspire ces extraits du film « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » de Jean-Yann.
Il faut qu'il renverse tout, il a un côté carnavalesque. Ces films, c'est tout d'un coup, c'est, pour parler poliment, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est tout.
C'est ça qui est jouissif, c'est
oui,
justement
enfin,
le
non,
côté bazar.
Non, tous les, et même les plus yanniens, l'organ, il y a un moment, il en fait trop. Il en fait trop. Le deuxième film, qui est sur le syndicalisme, il en fait trop. Et surtout le film sur la Chine, que moi je n'ai pas revu récemment, mais plusieurs personnes me l'ont dit, il est aujourd'hui...
Il est raciste.
Il est, voilà, vous oui. employez le mot, il est totalement raciste, de manière même étonnante.
Mais c'est quand même difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y avait cet humour très facilement raciste dans ces années-là ?
On revient au début de l'émission, où quand même, on était dans une France un peu fermée sur elle-même. Le problème de l'immigration, il arrivait, on sortait de la guerre d'Algérie. C'était le monde européen. La Chine, c'est, moi je me souviens, jeune lecteur des journaux, il y avait plein de trucs.
Donc on comprenait pas, au-delà de...
L'invasion chinoise, c'était pas simplement Jean-Yann, c'était un thème médiatique permanent. Aujourd'hui, la Chine, qui à mon avis a l'avenir devant lui beaucoup plus que les autres pays du monde, c'est une vraie question. Mais Jean-Yann, il ne sait pas s'arrêter.
Est-ce qu'on peut parler de populisme chez Coluche et chez Jean-Yann ? Parce que ce sont quand même deux comiques qui cherchent à se mettre du côté du peuple. Là, dans les extraits qu'on a entendus, le personnage de Gerber, donc interprété par Jean-Yann, est du côté du peuple contre, au fond, les mauvais produits, parce qu'il fait tester tous les produits, etc. Est-ce que vous parleriez, vous, de populisme, dans le bon ou dans le sens, mauvais sens du terme ?
Peut-être qu'on emploie aujourd'hui ni l'un ni l'autre, justement. Au fond, c'est pas des démocrates égalitaires. Moi, je suis, comme vous, un démocrate égalitaire, très certainement. Mais pour eux, ça peut jamais marcher. Alors, l'autre, Coluche, il a inventé le rassemblement. Et ça va donner les Restos du Cœur et la scène. Et pour ça, je dirais que Coluche, il est pas populiste. Il fait travailler les communautés ensemble, quitte à en dire du mal, quitte à être, à les hiérarchiser, à être très dur. Quant à Jean-Yann, c'est un total anarchiste radical.
Quand il est dirigé contre nous, l'humour peut nous faire perdre la face, ce qui, dans nos sociétés, est jugé insupportable. Bien sûr, on pourrait se demander si nous avons raison, collectivement, d'être aussi sensibles à ce que les autres pensent de nous, ou plutôt à ce que nous imaginons que les autres pensent de nous. Chacun peut être libre de la réponse à apporter à cette question. Mais on peut imaginer une autre manière de pratiquer l'humour, en se moquant un peu, mais gentiment, pas avec le lance-flamme qu'utilisaient facilement Coluche ou Jean-Yann. C'est un peu dans cette idée qu'avait émergé L'Oreille en coin sur France Inter. Un programme qui préfigurait les émissions de bande le midi sur cette station du service public. Une émission qui avait peut-être trouvé la formule pour amuser sans choquer, même si certaines séquences paraissent à nos yeux d'aujourd'hui plus discutables. C'est ce que nous allons voir dans l'épisode qui suit.